Décryptage, Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Il y a 10 ans, l'ennemi numéro 1 des États-Unis était tué dans un assaut des forces spéciales américaines au Pakistan. La mort d'Oussama Ben Laden, le commanditaire des attentats du 11 septembre 2001, a marqué un tournant, le début de la guerre contre le terrorisme marquée par l'invasion par les États-Unis de l'Afghanistan, puis de l'Irak. 10 ans après, cette guerre a évolué. Il y a eu évidemment la naissance et l'essor du groupe État islamique et une menace de plus en plus diversifiée. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui définir cette menace? Que reste-t-il de Ben Laden 10 ans après sa mort? C'est notre décryptage ce soir, soyez les bienvenus. Et pour répondre à nos questions, notre invité en ligne avec nous est Jenny Raflik. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur en histoire contemporaine des relations internationales à l'université de Nantes, dans l' ouest de la France, spécialiste des questions de sécurité et de terrorisme. Alors, il y a 10 ans, à sa mort, Ben Laden était considéré comme le plus grand leader djihadiste dans le monde. Aujourd'hui, sans son chef, quel est le poids d'Al-Qaïda, l'organisation de Ben Laden?
Alors, l'organisation a survécu à Ben Laden. Son successeur, Ayman al-Zawahiri, qui était de son vivant, enfin du vivant de Ben Laden, un proche, hein, qui l'avait accompagné dans tout son itinéraire vers le terrorisme et vers le djihadisme, a repris le flambeau. Et l'organisation continue de signer un certain nombre d'attentats. Elle a signé les attentats de 2015 contre Charlie Hebdo. Le dernier attentat important en date, c'était l'attentat de Pensacola contre la base américaine en 2019, en décembre 2019.
Et est-ce qu'Al-Qaïda fonctionne différemment aujourd'hui avec ce nouveau chef, Zawahiri, comme vous l'avez nommé, par rapport à la direction Ben Laden?
Alors, l'évolution en fait d'Al-Qaïda avait commencé avant la mort de Ben Laden. C'est dès 2004, on voit que l'organisation a commencé à se réorganiser de façon un petit peu plus, je dirais un petit peu plus souple, et à devenir finalement un peu plus un système, une marque, un réseau qu'une organisation strictement hiérarchisée. Et c'est non pas l'impact et la décision du chef, mais plutôt le contexte qui avait poussé à cette évolution. 2004, l'invasion de l'Irak, le conflit sur place. Et c'est là que l'amorce a commencé, bien avant la mort de Ben Laden.
Et ça se traduit comment, cette marque, comme vous le dites, comment ça se traduit concrètement dans le fonctionnement d'Al-Qaïda aujourd'hui?
Mais l'organisation s'est décentralisée, a laissé beaucoup plus de place à des groupes locaux, des filiales en quelque sorte. Hein, on parle souvent de franchise pour reprendre un peu ces images commerciales. En s'adaptant aussi aux conflits locaux, en s'adaptant au terrain, en s'adaptant aux sympathisants possibles de la cause djihadiste.
Alors les franchises, on peut les citer parce qu'effectivement elles se sont développées ces dernières années. On peut citer ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACPA qu'on entend régulièrement, Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Donc finalement, plus de franchises et moins de centralisation. C'est comme ça qu'on peut résumer un petit peu Al-Qaïda, son fonctionnement aujourd'hui.
Voilà, et aujourd'hui, la branche la plus active, c'est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JNIM, qui s'est constitué et qui est actif notamment dans le nord du Mali, au Sahel.
Et est-ce que ce fonctionnement est à l'image finalement du djihadisme aujourd'hui, justement avec le développement de plus en plus de franchises, comme vous le dites, et une organisation beaucoup moins centralisée qu'elle l'était à l'époque de Ben Laden?
Voilà, finalement, l'État islamique a suivi exactement la même évolution qu'Al-Qaïda, partant au moment de la proclamation du califat de quelque chose de très centralisé vers lui aussi quelque chose de très décentralisé. Et en cela, finalement, Al-Qaïda et l'État islamique, bien que pourtant très opposés sur le terrain, ont suivi cette même évolution essentiellement pour des raisons stratégiques. C'est ce qu'on a appelé la stratégie des mille en taille, qui a été théorisée au sein d'Al-Qaïda avant d'être pleinement mise en pratique par l'État islamique, c'est-à-dire d'inciter des passages à l'acte un peu partout, soit via des franchises, des groupes locaux, soit par des individus isolés.
Et les passages à l'acte, c'est sous l'impulsion du groupe État islamique principalement?
Alors, les deux, c'est la conjonction des propagandes à la fois d'Al-Qaïda, de l'État islamique et de multiples autres groupes. C'est aussi un des effets de cette décentralisation, l'utilisation d'Internet, qui a permis finalement non seulement de décentraliser géographiquement, mais décentraliser et de rendre des cellules individuelles autonomes.
Oui, on peut dire finalement que les groupes djihadistes ont su s'adapter à l'évolution technologique, on peut le dire ainsi, ils ont bien profité finalement du développement d'Internet, des technologies.
Alors, non seulement ils sont bien profité du développement des technologies, alors ils l'ont fait dès le début. Hein. Al-Qaïda a commencé avec les cassettes vidéo, les cassettes VHS, puis ensuite a évolué vers les sites Internet. L'État islamique l'a poussé sans doute encore plus fortement. Mais on a beaucoup parlé de la résilience de nos sociétés et les groupes terroristes aussi finalement ont développé malheureusement leur propre résilience en s'adaptant aussi à la lutte antiterroriste, aux contraintes, à la surveillance, pour essayer de s'enfiler dans les failles finalement des services de renseignement et des services de police.
Et justement, cette information, cette diffusion de la propagande, on cite souvent le groupe État islamique derrière tout ça. On peut évoquer, puisqu'on évoque ce soir l'évolution de la menace djihadiste 10 ans après la mort de Ben Laden, on peut revenir rapidement sur la naissance du groupe État islamique, parce qu'on dit souvent qu'il est né sur les cendres un petit peu d'Al-Qaïda. C'est un peu plus complexe.
Oui,
puisque vous nous dites surtout ce soir qu'Al-Qaïda est encore vivace.
Alors, d'abord parce que l'État islamique et Al-Qaïda, sur le terrain, s'opposent encore aujourd'hui. Ils se sont opposés notamment en Syrie et sur le terrain du Levant, avec des katibas qui étaient des katibas rivales, alors opposés à la fois pour séduire les combattants étrangers, opposés dans les alliances locales, opposés face à différents États, objectifs stratégiques opérationnels, et puis opposés aussi dans leur... dans leur profil, c'est-à-dire qu'Al-Qaïda a cherché des gens sans doute un peu plus qualifiés quand l'État islamique pratiquait un djihad de masse et du coup les opérations qui étaient montées étaient très différentes.
Et qu'on le retrouve encore aujourd'hui peut-être ce djihad de masse du groupe État islamique avec ses loups solitaires parfois aujourd'hui personnes qui se sont radicalisées via Internet, ça revient à ce qu'on disait avec évidemment les nouvelles technologies ou en tout cas sans passer par la radicalisation au Proche-Orient comme c'était le cas il y a quelques années.
Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on a des profils qui sont d'autant plus difficiles à repérer, qu'il n'y a pas eu de voyage, qu'il n'y a pas eu d'entraînement dans des camps, qu'il n'y a pas eu ces itinéraires très progressifs.
Et ça c'est une grande différence, pardon, je vous coupe, mais c'est une grande différence entre Al-Qaïda et l'État islamique ?
Alors, je crois que c'est surtout une différence de contexte. Al-Qaïda s'adapte aussi, finalement, à cette contrainte. Et va suivre un peu l'État islamique sur cette question. C'est plutôt la surveillance renforcée des voyages, des aéroports, etc., qui impose ce changement de stratégie.
Et est-ce que l'idéologie djihadiste a évolué 10 ans après la mort de Ben Laden ?
Alors, on peut en douter. Je prendrai un seul symbole. Pour l'anniversaire des 10 ans de la mort de Ben Laden, la propagande d'Al-Qaïda a ressorti une ancienne vidéo de Ben Laden et donc des discours de Ben Laden. Autrement dit, on a une continuité dans le discours qui est porté, dans le message. Et finalement, on retrouve même la figure de Ben Laden 10 ans après.
Donc, il continue à être adoubé finalement par les djihadistes. Vous évoquiez le rapport entre Al-Qaïda et le groupe État islamique. Il y a une sorte de compétition. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on peut hiérarchiser Al-Qaïda et le groupe État islamique en termes de menaces ?
Non, je crois que ce serait dangereux. D'abord parce qu'on ne peut pas préjuger de l'avenir et savoir ce que les uns ou les autres sont en train de préparer. Aujourd'hui, on a indéniablement des terrains d'action un petit peu différents. Al-Qaïda, notamment par sa branche sahélienne, est très active en Afrique. Elle a été active sur le continent indien, alors que c'est plutôt l'État islamique qui a commis les derniers attentats sur le territoire européen et français notamment. Mais rien ne permet d'affirmer que demain, Al-Qaïda ne mènera pas une opération d'envergure sur un territoire occidental.
Alors, vous évoquiez, Génie Raflik, le Sahel, c'est intéressant. On va écouter le patron du renseignement français, la DGSE, Bernard Aimier, qui s'exprimait en février dernier à l'issue d'un comité exécutif de contre-terrorisme à Orléans, près de Paris. Et il a évoqué la situation au Sahel. Et face à cette situation, il a évoqué, et on va en parler dans un instant, je vais écouter vos réactions, Génie Réflique, l'internationalisation de la menace djihadiste. On écoute donc le patron du renseignement français.
La mainmise des combattants étrangers et internationalistes est très forte dans le djihad sahélien. La plupart des commandants ne sont pas maliens, ce sont des étrangers. Aujourd'hui, leur chef, Yad El Rally, est toujours là. Il incarne la stratégie d'Al-Qaïda au Sahel. Ce n'est pas un homme qui pense le terrorisme, c'est un homme qui le pratique au quotidien. Et pour desserrer l'étau dans lequel ils sont pris et pour s'étendre vers le sud, les terroristes financent déjà des hommes qui se disséminent en Côte d'Ivoire ou au Bénin. Des combattants ont également été envoyés aux confins du Nigeria, du Niger et du Tchad, où plusieurs groupes issus de Boko Haram continuent de tisser leur toile et d'assassiner.
Voilà, tisser leur toile, c'est vraiment l'expression, hein, avec des combattants disséminés, comme le dit Bernard Aimier, dans de nombreux pays. Ça, c'est quelque chose, et vous l'avez dit, Génie Réflique, qui n'existait pas sous Ben Laden, où tout était davantage centralisé. On peut faire le parallèle avec le groupe État islamique, par exemple, le groupe terroriste du Mozambique, qui a pris le port de Palma. C'est un groupe inconnu, qui a prêté allégeance au groupe État islamique. Ça, c'est une illustration, selon vous, de cette internationalisation qu'on évoque ce soir?
Alors, c'est cette internationalisation, mais aussi c'est cette stratégie de profiter de chaque faille, de chaque zone de tension, de chaque zone crise pour essayer de prospérer et d'aller trouver aussi de nouveaux combattants, de recruter ou de trouver un discours propice à la propagande. On a vraiment cette ambition mondiale, hein, indéniablement, puisque sur tous les continents, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, où ces groupes essayent de proliférer. Ils essayent, parfois ça marche pas, et donc ils vont tenter sur un autre terrain.
Et ça se fait comment, cette propagande ?
Alors, on a une propagande à la fois qui s'appuie sur les victoires. On a parlé là du Mozambique, les combats autour de Palma, par exemple, hein, le renoncement de Total, a priori, à mener son projet. Voilà, ça, c'est quelque chose qui va être évoqué. Et puis, c'est une propagande qui se base aussi sur le discours des victimes, c'est-à-dire mettre en avant les massacres, les morts liés à ces guerres, en retournant, évidemment, la responsabilité sur le camp adverse.
Alors, je vais citer le Center for Strategic and International Studies de Washington, qui affirme que le nombre de militants islamistes armés a été multiplié par 4 en 20 ans. Ça veut dire que cette propagande fonctionne et qu'aujourd'hui, finalement, les groupes djihadistes sont plus puissants qu'il y a 10 ans, au moment de la mort de Ben Laden, parce que c'est ce qu'on évoque ce soir.
Alors voilà, ça c'est effectivement, et là c'est pas le bilan d'Al-Qaïda, c'est le bilan du djihadisme dans son ensemble, notamment depuis 2003, depuis le conflit en Irak, les départs de combattants étrangers se sont multipliés, les fronts se sont multipliés, donc les recrues également, et effectivement en termes d'effectifs, les combattants sont plus nombreux. Après, ils sont peut-être moins entraînés qu'ils ne l'étaient au début de la période Ben Laden, finalement.
Moins entraînés, ça revient à ce qu'on dit finalement, c'est que de plus en plus aujourd'hui de jeunes peuvent s'improviser djihadistes, alors qu'avant, voilà, Tout était davantage centralisé. C'est ça que vous voulez dire par là ?
Je dirais que c'est presque plus une stratégie quantitative aujourd'hui que qualitative.
D'accord, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on a vraiment ce djihad de masse qui cherche à recruter tout le monde. Toute participation va être bonne à prendre pour ces groupes. Alors qu'Al-Qaïda, alors c'est très bien décrit dans les livres de l'ancien juge Marc Trevidic, Al-Qaïda sélectionnait ses recrues. Al-Qaïda choisissait les gens qui allaient être les plus efficaces. Il ne prenait pas tout le monde. Alors qu'aujourd'hui, on a vraiment une stratégie de recrutement de masse.
Mais est-ce que l'idéologie, justement, dans tout ça, passe pas au second plan, peut-être par rapport à ce qui est passé il y a 10 ans? Puisque je vais citer, par exemple, les auteurs des attentats du 13 novembre 2015 en France, qui ne connaissaient pas l'islam, n'ont pas appris l'arabe, par exemple. Je pense que ça, c'est un changement majeur, justement, dans ce recrutement.
Alors, du fait de la formation, une partie de ceux qui étaient recrutés par Al-Qaïda ne le connaissaient pas forcément non plus au départ. Et je pense que la formation était plus sur le maniement des armes et les questions militaires que sur les questions purement idéologiques et religieuses.
Alors, est-ce qu'il y a eu finalement un lâcher-prise de la part des dirigeants djihadistes sur cette idéologie? Puisque aujourd'hui, comment expliquer justement que de plus en plus de on va dire, des jeunes en déshérence qui peuvent s'improviser djihadistes, capables du pire carnage aujourd'hui, c'était quelque chose qui n'était pas possible, ou en tout cas qui ne s'est pas produit il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, quand en tout cas cette guerre contre le terrorisme que je citais a été lancée après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis?
Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire une comparaison historique, je suis historienne, je reviens à l'histoire, avec des terrorismes plus anciens et de nature différente, et notamment, je pense, au terrorisme d'extrême gauche, la bande Abadar, par exemple, hein, dans les années 70-80, où la formation idéologique était pas non plus prioritaire. Et on peut évoquer un peu, comme pour illustrer ça, la déception de Jean-Paul Sartre quand il rencontre les membres de la fraction Armée Rouge, qu'il se rend compte que finalement ils n'ont pas les connaissances philosophiques, politiques qui accompagnent leurs gestes. Et on a un petit peu le même décalage ici, parce que les organisations, les chefs ont cette idéologie, mais les chefs cherchent des combattants avant toute chose.
Notre décryptage,
donc, c'est l'efficacité du combat.
Notre décryptage ce soir avec Jenny Raflik, professeure en histoire contemporaine des relations internationales à l'Université de Nantes, spécialiste des questions de sécurité et de terrorisme. On évoque l'héritage Ben Laden 10 ans après la mort du chef d'Al-Qaïda. Jenny Raflik, quel est aujourd'hui l'objectif des groupes terroristes sous Ben Laden? C'était les Occidentaux, évidemment États-Unis en tête, hein, avec les attentats du 11 septembre. En 2013-2014, il fallait créer ce califat, hein, avec le groupe État islamique. Aujourd'hui, c'est quoi l'objectif des groupes terroristes?
Alors, il y en a plusieurs en fonction des zones géographiques et des groupes, justement. Certains visent toujours à établir non pas un califat, mais au moins des califats sur certains territoires. Et pour le coup, en Occident, je crois que ce qu'ils cherchent, et cette fameuse stratégie des mille entailles de l'État islamique vise à ça, c'est diviser la société, déchirer le tissu social pour essayer de monter des communautés les unes contre les autres et créer ce climat de faille, d'état failli, qui leur permettrait d'essayer de prospérer et de progresser également. Oui. C'est le principal danger pour nous aujourd'hui.
Il y a cette idée de créer le chaos, on le dit souvent d'ailleurs, hein.
Voilà.
Et donc de pulluler finalement, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur le terrain international, les groupes terroristes pullulent dans les pays finalement où il règne une insécurité.
Voilà, c'est ça. Donc plus la situation sociale va être tendue et plus ils vont réussir à se faufiler et à essayer de retourner la situation à leur profit.
Et à prêter évidemment des connexions, cette fameuse allégeance au groupe État islamique pour des groupes locaux, ça se passe comme ça?
Alors, les allégeances sont assez individuelles, hein. Dans la plupart des cas, ce sont des chefs de groupes locaux qui proclament allégeance de leur propre chef, hein, à l'État islamique. C'est quelque chose de relativement souple, et c'est surtout quelque chose qui relève essentiellement du discours et de l'affichage.
Et ça s'appuie, ça se traduit en tout cas par un soutien principalement logistique, et on retrouve notamment dans les actions, on l'a vu notamment au Mozambique, cité le Mozambique, des actions évidemment inspirées complètement du groupe État islamique, de la part du groupe terroriste local qui a mené l'offensive sur le port de Palma. Merci beaucoup Jenny Raflik, voilà, pour ce décryptage. Professeur en histoire contemporaine des relations internationales à l'Université de Nantes, spécialiste des questions de sécurité et de terrorisme. Rendez-vous sur notre page rfi.fr pour réécouter ce décryptage et évidemment le podcast. Rémi Bayol à la préparation, Claude Battista à la réalisation ce soir. Restez à l'écoute de RFI dans un instant. Guillaume Nodin, son retour. Le débat du jour, le renouvellement politique en Allemagne annonce-t-il un vrai changement?
Priorité santé. Caroline.